À Cahors 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Dans un instant, on va se plonger dans la mission des chambres des métiers de l'artisanat avec notre invité. C'est le président de la chambre des métiers de l'artisanat des Hautes-Pyrénées. Daniel Pugès sera à notre micro dans quelques minutes. Et puis nous irons du côté de Bayonne pour évoquer l'actualité, l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Pour cela, je serai en duplex avec Nathalie Chambon, qui est la responsable de la communication pour ce diocèse. Et puis on va évoquer l'histoire du diocèse de Tarbes et Lourdes à travers un ouvrage que Mgr Jacques Perrier, évêque émérite du diocèse de Tarbes et Lourdes, vient de publier. L'histoire du diocèse de Tarbes et Lourdes entre 1970 et 2012. Mgr Jacques Perrier sera au micro d'Androse Jankovic. Mais pour le moment, place à l'actualité, c'est Ambre Pagès qui nous rejoint. Elle est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. On la retrouve pour les titres à la une de l'actu régionale.
Fin de mois d'avril, placée sous vigilance jaune orage en Occitanie. L'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot sont concernés par le risque d'averses et d'orages ce jeudi. Une dégradation qui ne devrait pas se maintenir au cours du week-end. Lutter contre l'abandon des animaux de compagnie. C'est l'initiative des commerces et des associations de Villefranche-de-Rouergue. Une opération a été lancée hier et perdurera jusqu'au 30 juin afin de récolter des dons pour la cause animale. La hausse du prix des carburants et les mesures du gouvernement jugées dérisoires continuent d'entretenir la colère des taxis gersois. Déjà mobilisés aux côtés des ambulanciers au début du mois, une réunion collective est organisée le 30 mai à Auch pour confronter les décideurs politiques. Ce lundi 4 mai, un nouvel hôtel va accueillir les pèlerins à Lourdes. Le groupe Ramos lance pour ce début mai le premier établissement de sa nouvelle chaîne dans l'ancien hôtel de l'Étoile. Modernité, accessibilité et prix peu coûteux sont les engagements tenus par le groupe qui souhaite étendre son activité. Une première pour Saint-Girons. La PACEM, la course relais née en 2018 pour promouvoir et soutenir la culture occitane, traversera la commune ce lundi. Pour l'occasion, Saint-Girons et Saint-Lizier organisent des festivités mettant à l'honneur la culture occitane. Un site d'escalade fermé aux grimpeurs à Saint-Antonin-Nobleval. Un arrêté de la mairie interdit l'accès à une trentaine de voies jusqu'au 15 mai pour permettre la nidification d'un couple de faucons pèlerins.
Merci Ambre Pagès. À tout à l'heure, 12h30 pour le journal régional. Dans un instant, direction Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Pour cela, je serai en duplex avec Nathalie Chambon, c'est la responsable communication pour le diocèse. Et puis juste après, l'histoire du diocèse de Tarbes et Lourdes entre 1970 et 2012. Ce sera avec Mgr Jacques Perrier au micro d'Androse Jankovic. Pour le moment, c'est en musique quand on débute cette émission avec Grégoire.
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir, bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse.
Radio Présence dans la Haute Ariège, 92.7.
La vie dans les diocèses, c'est tous les jours sur Radio Présence, direction Bayonne, aujourd'hui avec Nathalie Chambon, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescarré au Laurent. On va détailler une partie de l'agenda béarnais. Cet agenda, pour débuter, nous amène à Morlas, c'est pas très loin de Pau, pour cette lecture priante de l'Évangile selon saint Matthieu.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce soir, c'est à la maison paroissiale de Morlas de 18h à 20h. Et c'est une lectio divina, donc de ce récit de l'évangile de saint Matthieu qui est animé par Anne Dutheil. Petit temps de réflexion, de catéchisme et aussi temps fraternel. C'est à la maison paroissiale de Morlas ce soir.
On poursuit cet agenda avec ce pèlerinage provincial des familles. C'est pour les vocations. Alors c'est ce 1er mai, mais c'est important d'en parler.
Oui, tout à fait. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations sont sur le site diocèse64.org. Un pèlerinage des familles pour les vocations. Monseigneur Ayane ne cesse de répéter que la prière des familles en particulier est très importante pour que nous puissions avoir des vocations religieuses, des vocations sacerdotales. C'est à partir de 9h30 jusqu'à 17h. Il y aura bien sûr la messe présidée par notre évêque, mais également une conférence du père Vincent Brénard, qui est l'ancien directeur du service national de la pastorale des jeunes à la conférence des évêques de France. C'est un parcours qui est tout à fait possible en poussette, avec quelques béquilles pour les plus âgés. Vraiment vivre ce temps de prière et de partage et de pèlerinage en famille le 1er mai pour prier pour les vocations pour notre diocèse, mais bien sûr pour également tous les diocèses.
Voilà, et on se renseigne donc sur diocèse64.org. Il y a même un QR code pour pouvoir suivre le programme et s'inscrire en ligne.
Tout à fait.
On poursuit cet agenda avec l'actualité de la communauté des Béatitudes.
Oui, c'est vraiment la vocation de prier pour le peuple juif, la vocation de cette communauté des Béatitudes de Nailles, qui vous propose vendredi 1er mai une prière familiale d'entrée dans le Shabbat. Alors la prière commence à 19h, mais il est important et indispensable de venir à 18h15 pour avoir ce petit temps de préparation et d'explication. C'est à la communauté des Béatitudes de Nailles ce vendredi 1er mai.
On poursuit cet agenda avec cette conférence qui est proposée par la BCR de Pau, une conférence qui s'intitule « La foi chrétienne en Afrique de l'Ouest ».
Oui, c'est le père Sylvain Dansou que nous connaissons bien à Pau, le curé de la paroisse de la Sainte Famille, qui propose mercredi 6 mai à 18h30 cette conférence. Donc, au retour justement du voyage du pape Léon XIV en Afrique, important de mieux comprendre et de mieux connaître la foi chrétienne en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est à la Bibliothèque de Culture Religieuse de Pau, avenue Édouard VII, le 6 mai à 18h30.
Et enfin, on retourne à la communauté des Béatitudes avec un week-end argile et paroles. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, le week-end suivant.
Oui, tout à fait. C'est du 7 au 10 mai, mais je vous propose déjà de pouvoir regarder sur le site pour éventuellement vous inscrire ce week-end, donc week-end argile et paroles, autour du thème « Les nuits dans la Bible ». Toujours une manière de mettre en adéquation le corps et l'âme. Il n'y a pas besoin d'être un potier professionnel, c'est juste de quoi prendre une blouse, une Bible et des notes. Donc n'hésitez pas à venir profiter d'un petit temps, une petite parenthèse à la communauté des Béatitudes du 7 au 10 mai.
Voilà un aperçu de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescarré au Laurent. Je disais 264.org, ce site internet, le site internet du diocèse vous permet de retrouver plus largement l'agenda et puis toute l'actualité également de votre diocèse. Il me reste qu'à vous remercier. Nathalie Chambon, je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescarré au Laurent et on se dit à la semaine prochaine sur Radio Présence.
Tout à fait, à la semaine prochaine Gilles. Bonne journée.
Et après le diocèse de Bayonne, direction dans un instant le diocèse de Tarbes et Lourdes. On va évoquer l'histoire de ce diocèse à travers un ouvrage que Mgr Jacques Perrier, évêque émérite du diocèse de Tarbes et Lourdes, vient de publier. Cet ouvrage retrace l'histoire du diocèse de Tarbes et Lourdes entre 1970 et 2012.
Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bon appétit. À 12h15, on retrouve Anne-Rose Jankovic et Monseigneur Jacques Perrier, son invité.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Bonjour Monseigneur Jacques Perrier.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'évêque émérite de Tarbes et Lourdes et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au micro de Radio Présence. C'est la première fois que j'ai la chance de vous interviewer, alors c'est une première pour moi.
Mais il est temps, vu mon âge, il est temps.
Alors, vous venez aujourd'hui nous parler de cet ouvrage que vous venez de publier, Diocèse de Tarbes et Lourdes, 1970-2012. C'est l'histoire du diocèse que vous venez de publier et vous allez nous expliquer d'abord comment vous l'avez écrit et ce qu'il a de particulier, mais d'abord pourquoi vous avez voulu ou senti le besoin d'écrire cet ouvrage sur l'histoire du diocèse.
C'est une commande, en fait. C'est une commande. Je trouve qu'on peut faire l'histoire de la commande sans trahir de secrets graves. C'est Pascal Castillo, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé pour les autres livres sur Lourdes, qui a vu que j'avais fini les livres sur Lourdes. Elle s'est dit, mais après tout, il pourrait peut-être faire quelque chose aussi sur le diocèse, sur l'ensemble du diocèse, Lourdes y compris. Et elle est allée suggérer cette idée à Monseigneur Mika, qui a approuvé l'idée, évidemment. Et donc, il m'a été demandé de reprendre des éléments, au moins, de l'histoire du diocèse, à partir de 1970, étant donné qu'il y avait un livre, déjà, publié par Chanoine Lafont, qui était un homme très très compétent, supérieur du séminaire, etc., et qui allait des origines du diocèse jusqu'à 1970. 1970 étant le départ de Monseigneur Théas. Et donc, on m'a dit, ben, vous commencerez en 1970 et vous vous arrêterez quand vous partez vous-même, c'est-à-dire en 2012. Donc voilà les frontières, 1970-2012. Si on parle en termes d'épiscopat, c'est l'épiscopat de Monseigneur Donze qui a été très long, 18 ans, Monseigneur Sahuguet et le mien.
C'est une histoire que vous connaissiez déjà par cœur vous-même, Monseigneur Perrier, ou est-ce que vous avez eu besoin de vous plonger dans quelques archives, de faire beaucoup de... Alors, ceux qui vous connaissent savent que vous connaissez quand même sur le bout des doigts l'histoire du diocèse. Mais je suis un petit peu curieuse de savoir si vous avez eu besoin d'enquêter un peu.
Beaucoup,
c'est vrai.
Beaucoup, à la fois sur les périodes qui m'ont précédé, parce que vous savez, quand on est en charge, on n'a pas beaucoup de temps. En fait, oui, ça serait utile quand on est en charge de mieux connaître l'histoire précédente. Mais par construction ou par habitude, en France, les évêques ne sont pas originaires de l'endroit dont ils sont l'évêque.
Oui.
C'est d'ailleurs un problème, parce que quand vous arrivez quelque part, les gens présupposent que vous savez tout sur l'histoire. En fait, vous savez rien. En particulier pour moi qui étais parisien, ici c'est une autre culture, c'est une autre université catholique, enfin tout est assez différent, la langue elle-même, etc., les coutumes, la prononciation en particulier, ben tout ça c'est très différent. Bon, et donc pour les périodes qui m'ont précédé, j'avais vraiment besoin effectivement d'aller aux sources, et même pour ma période, je m'aperçois qu'il y a bien des choses que j'ai redécouvertes, j'avais pas complètement oublié, mais en relisant ou en écoutant des témoins, ça m'est revenu à la mémoire. Donc, j'ai dû à la fois lire tout ce que je pouvais lire, en particulier des bulletins religieux, des choses comme ça, et puis j'ai enquêté quand même auprès d'un certain nombre de gens. Pour cette période, il y a des gens qui sont encore vivants. 70, oui. 70, ça fait jamais que 56 ans, donc il y a quand même...
C'est pas grand-chose, 56 ans.
Qui sont encore vivants. On a encore même, bon, pour remonter plus loin, il y a encore pas mal de gens qui ont connu le centenaire de Lourdes en 58. Voilà. Donc il faut en profiter aussi, d'avoir des témoins vivants. Et on s'aperçoit à ce moment-là que la mémoire, les gens gardent un souvenir assez flou des événements. Ils gardent l'impression, ils vous donneront peu de détails précis.
Qu'est-ce que vous avez aimé apprendre, découvrir de notre histoire?
Ah ben, c'est-à-dire, j'ai essayé de rendre compte un peu de tous les aspects, je ne sais pas si j'ai pris tous les aspects, il y en a peut-être qui ont été oubliés. Enfin, j'ai voulu vraiment élargir, pour ça, de faire un livre d'évêque, si j'ose dire, qui doit s'intéresser quand même à tous les aspects de la vie du diocèse, les choses qu'il connaît mieux et celles qu'il connaît moins. Donc, ça m'a permis sans doute de mieux, et puis en particulier aussi de mieux connaître les intentions, les orientations de mes prédécesseurs, rendre hommage.
Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ce livre est écrit. C'est pas une sorte de roman historique. Vous avez fait le choix d'écrire par chapitre. Alors immobilier, jeunes, formation des laïcs, étudiants. Alors vous balayez vraiment tout le champ lexical possible d'un épiscopat. Mais vous avez vraiment, pourquoi vous avez fait ce choix de faire par thématique?
C'est ma manière. J'avais déjà procédé de cette façon pour un livre que j'avais fait sur l'autre qui s'appelait L'autre dans l'histoire, c'est-à-dire de procéder par thème. Alors, je prends un thème, voilà, c'est comme une cible, comme la carotte géologique, c'est-à-dire on traverse les époques. C'est pour ça que je ne donne pas au livre, je ne lui ai pas donné le titre d'histoire du diocèse, ça ne veut pas être une histoire continue. Ce sont des documents, au fond, que je livre pour l'histoire, pour cette période de l'histoire. Bon, mais je ne prétends pas donner une image globale de l'ensemble de la vie du diocèse. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse faire, au sens un peu rigoureux du mot, une histoire d'un diocèse. On est tellement imbriqué, non seulement dans l'Église catholique, mais on est tellement imbriqué dans la vie de notre pays, la politique et tout ça, que je trouve que ça serait un peu prétentieux aujourd'hui de vouloir faire l'histoire d'un diocèse. On peut peut-être faire l'histoire de l'Église de France, et encore, mais en tout cas, l'histoire d'un diocèse, ça me paraît une coupe, c'est trop arbitraire. On pourrait pas faire non plus seulement l'histoire d'une paroisse. La paroisse, elle vit dans un diocèse, mais le diocèse, il vit aussi non seulement dans une Église évidemment mondiale catholique, mais il vit aussi dans un pays en symbiose avec les institutions sociales, politiques, économiques, etc.
Quand vous avez écrit donc ce livre et quand vous regardez l'histoire du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, qu'est-ce que vous vous dites, vous qui avez été évêque ici, qu'est-ce que vous avez envie de dire et qu'est-ce que vous observez de la manière dont le diocèse s'est déployé, a évolué?
Je crois que le discours change plus que la réalité. Alors la réalité,
comment ça?
On la connaît, la déchristianisation, enfin toute une série de phénomènes. Alors on pourrait dire l'extrême, c'est les sanctuaires. Parce que j'ai tenu à ce que dans le diocèse, il y a les sanctuaires. Donc il n'y a pas simplement un chapitre sur Lourdes, mais pour beaucoup des thèmes, je dis au sanctuaire, pour les pèlerins, ça se présente de telle ou telle façon. Pour les sanctuaires, c'est assez net. Il y a eu, dans le discours, une volonté de changement assez radicale.
Oui.
Bon. En fait, la réalité des pèlerins a bougé, mais moins que le discours tenu. On pourrait dire un peu d'une manière générale, que dans ce diocèse, mais aussi, on peut dire, dans toute l'Église de France, les périodes audiciales, puisque je commence en 1970, est très très marquée par l'option de l'action catholique spécialisée.
Oui.
Il est évident que ça a beaucoup changé entre 1970 et 2012, et encore plus aujourd'hui.
Ça a changé, mais on a quand même gardé ça dans notre histoire, bien sûr, et dans notre manière de travailler, sans doute, on a forcément un héritage de ça.
Bien sûr, mais je veux dire, autant dans le discours en particulier de mes prédécesseurs, c'était extrêmement prévalent. Enfin, c'était prioritaire. Faut savoir qu'il y a eu des diocèses dans l'Église de France qui se sont structurés, y compris par exemple pour la Guadeloupe, qui se sont structurés selon ce modèle-là. Donc il y a eu un modèle en France, surtout au lendemain de la guerre. Et forcément, mes prédécesseurs étaient très marqués par ça, parce que c'était deux anciens aumôniers d'action catholique spécialisés, l'un et l'autre, et Monseigneur Dose et Monseigneur Sahuquet.
Oui, donc ils sont arrivés pour leur épiscopat avec ce qu'ils étaient, avec leur sensibilité, avec... Quel chapitre avez-vous préféré écrire?
J'en sais rien.
Il y en a bien.
Sincèrement,
Il n'y en a pas.
Je ne vais pas vous dire. D'ailleurs, je reviens sur un thème que j'ai abordé il y a quelques instants. J'ai essayé d'écrire quand même comme évêque, c'est-à-dire de porter intérêt à tout ce qui se présente dans la vie du diocèse. Les gens savent bien un peu quelle est ma formation, mes orientations, un peu mon style, etc. L'évêque doit quand même... pas donner l'illusion, mais essayer que les gens soient persuadés qu'on porte de l'intérêt à toute chose, y compris celle qu'on ignore le plus et où on est le plus malhabile. On est très malhabile, forcément, dans certains domaines. Peut-être dans tous, d'ailleurs.
Pour qui avez-vous écrit ce livre, Monseigneur Perrier?
Comme je le disais il y a quelques instants, quand on est en charge, quand on est en fonction, on est pris par le travail, on n'a pas beaucoup le temps d'aller lire ce genre de choses. Alors, or, ça serait important. Donc, moi, je pense que des séminaires, des prêtres, des diacres, des responsables laïcs, des chefs de service, y compris, je pense qu'ils peuvent avoir intérêt. Bon, ça se lit assez facilement parce que ce sont des petits chapitres, pas très longs. Bon.
Oui, puis on peut les prendre dans le sens qu'on veut.
On peut prendre un chapitre, n'importe. Puis il y a des trucs qui peuvent vous intéresser, d'autres pas du tout. Les gens qui s'intéressent à la musique, ils vont dire la musique.
Tout est intéressant.
Merci. Voilà. Alors évidemment, il doit y avoir un truc sur les médias, sans doute.
C'est ce que j'ai cherché en premier.
J'aimerais que les gens puissent... En plus, je crois que le diocèse a voulu que ce soit pas cher. J'aime beaucoup la couverture. Alors, vous savez, pour un livre, la couverture fait la moitié.
Il faut que ça donne envie.
Oui. La couverture fait la moitié. Alors là, c'est une peinture de Maslatte qui est à la maison Saint-Paul, hein, et qui évoque bien le diocèse avec toute une série de clochers. En fait, la maquette est bien faite. Ça fait la moitié du succès.
Voilà, et puis vous venez en parler sur Radio Présence, donc ça fait sans doute aussi un petit peu de pub, du moins, nous l'espérons. En tous les cas, c'est vrai.
Et où est-ce qu'on le trouve?
Alors, ce livre est disponible à la maison diocésaine, bien sûr, à Tarbes, et puis dans les secrétariats des paroisses. Chacune des 10 paroisses du diocèse dispose d'un stock de cet ouvrage, Diocèse de Tarbes et Lourdes, l'histoire de 1970 à 2012, que vous avez donc écrite. Et on peut parler quand même de la collaboration de Pascal Leroy-Castillo, parce que c'est important.
Pour la recherche de documents, et puis surtout, il y a un cahier iconographique, comme j'avais fait d'ailleurs dans les livres que j'ai écrits sur l'histoire des sanctuaires. Cahier iconographique, je crois qu'aujourd'hui c'est très important, et pas simplement comme illustration, mais l'image met en valeur certaines choses que le texte rend plus insipide. Donc je crois que c'était important. Je crois que c'était important que le cahier iconographique soit assez développé. Il se trouve à la fin, voilà. Et ça coûte, je crois que ça coûte 25 euros.
25 euros, voilà.
Il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pour ça que je veux dire combien ça coûte. C'est pour rien.
Effectivement, 25 euros. Ma dernière question, Monseigneur Perrier. Aujourd'hui, vous vivez dans le diocèse d'Arbes et Lourdes, à Argelès-Gazost.
Alors ça, je suis content de ça parce que, forcément, l'évêque de Tarbes et Lourdes, on pense qu'il s'occupe que de Lourdes. C'est pas vrai. Je me suis beaucoup occupé de Lourdes. C'est vrai. J'ai essayé, moi, d'être évêque de l'ensemble du diocèse. Donc, en allant habiter ces années-ci, qui sont sans doute les dernières de ma vie, à Argelès-Gazost, enfin, c'est montré que, c'est le diocèse, tout autant que les sanctuaires, je porte autant d'intérêt à la nouvelle grande paroisse du pays d'Argelès que j'en portais au sanctuaire.
Merci beaucoup, Mgr Perrier. Merci d'être là, d'être à Argelès-Gazost, où vous vivez. Puis merci d'être dans les studios de Radio Présence aujourd'hui, donc pour nous parler de votre ouvrage. Merci beaucoup.
Voilà, merci à Androse Jankovic, qui a réalisé cet entretien. Bon appétit avec nous, et dans un instant, nous allons plonger dans l'émission des Chambres des Métiers et de l'Artisanat avec le président de la Chambre des Métiers de l'Artisanat des Hautes-Pyrénées, c'est Daniel Pagès, qui sera au micro de Philippe Subercase. Mais pour le moment, à la mi-journée, voici le journal régional présenté par Ambre Pagès, étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse.
Bonjour à tous, une fin de mois d'avril placée sous vigilance jaune orage en Occitanie. L'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot sont concernés par le risque d'averses et d'orages ce jeudi. Une alerte maintenue jusqu'à 21h par Météo France. La dégradation devrait s'atténuer à partir de demain, mais elle restera persistante dans les Pyrénées. Les prévisions pour le week-end restent incertaines pour le moment dans la région. Le temps vacillera entre pluie et soleil. Les commerçants et les associations se mobilisent pour la cause animale à Villefranche de Rouergue. L'enseigne Maxiso a lancé une opération ce mercredi et jusqu'au 30 juin. Des cabas sont proposés à la vente, 1,50€, et veut reverser à Agir pour la vie animale et Vétérinaire pour tous, pour chaque achat. Cette initiative nationale est mise en place par des commerces de proximité tels que Xena et compagnie. Elle permet d'améliorer les conditions d'accueil en refuge et d'accompagner les propriétaires en difficulté pour lutter contre les abandons. Des dons sont aussi possibles, des bacs sont mis à disposition des clients qui peuvent y déposer des croquettes, jouets, accessoires ou médicaments non périmés. Face à la hausse des coûts du carburant, les taxis gersois continuent de s'opposer aux mesures gouvernementales jugées dérisoires. Après une mobilisation aux côtés des ambulanciers le 2 avril dernier à Auch, ils annoncent à présent une réunion publique le 30 mai à la salle du Mouzon, afin de confronter les décideurs politiques aux réalités économiques du terrain et donner la parole aux citoyens. Pour l'occasion, députés, sénateurs et la présidente de région, Carole Delga, ont été invités. Elle réunira taxis, ambulanciers, représentants agricoles et élus locaux. Celle-ci a lieu après la publication par les syndicats Arc-Atlantique Taxi 32 et l'UNT 32 d'un communiqué réagissant aux annonces issues de la réunion du 24 avril avec le ministère des Transports. Des annonces jugées très loin de répondre à l'urgence provoquée par l'explosion des prix du carburant. Pendant ce temps, le Couserans accueillera la PACEM, cette course de relais de plus de 2000 km pour soutenir la culture occitane, traverse Saint-Girons pour la première fois ce lundi 4 mai. Organisé tous les deux ans depuis 2018, ce projet porté par l'association LIGAMS se déroulera du 30 avril à midi au 9 mai et permettra de récolter des fonds qui aideront à la promotion de la langue occitane. Pour accueillir l'événement, Saint-Girons organise des animations mettant en avant la culture régionale à partir de 18h15, place Jean Jaurès. C'est ensuite à Saint-Lizier que les festivités continueront. Et enfin, les amateurs d'escalade devront attendre avant de pouvoir de nouveau grimper en falaise à Saint-Antonin-Nobleval. Un arrêté de la mairie a été formulé jusqu'au 15 mai, interdisant l'accès à une trentaine de voies sur les 900 proposées, afin de protéger la nidification d'un couple de faucons pèlerins. Un événement annuel auquel les grimpeurs locaux sont habitués.
Et merci à Ambre Pagès, voilà, étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Retour de l'info à 13h avec l'actualité nationale et internationale. Dans un instant, le regard des écrivains sur les Pyrénées avec Anne Lasserre. Cette semaine, Anne Lasserre a sélectionné Victor Hugo. Mais pour le moment, c'est Philippe Subercaz qui est avec le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hautes-Pyrénées. Entretien à réaliser il y a quelques semaines.
Présence à Ax-les-Thermes. 92.7.
Bonjour Daniel Pugès.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Ensemble, nous allons évoquer aussi l'avenir des jeunes. Faut-il remettre en avant les CAP, BEP et bac professionnels ? On prend le temps de découvrir donc la chambre de métier dans cette émission. Daniel Pugès, vous êtes président depuis 2010.
Tout à fait.
Mais vous êtes là depuis de nombreuses années, oui. Actif à la chambre de métier de l'artisanat. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être aussi présent et prendre la présidence?
Alors, effectivement, je suis rentré en chambre de métier en 1989. J'ai été élu membre du canton de Séméac, installé en tant que chef d'entreprise en électricité à Barbazan-de-Batte depuis avril 88. Le besoin de servir, l'envie de rendre service, accompagner les entreprises. Quand je me suis installé, j'ai été accompagné par la chambre de métier de l'artisanat des Hautes-Pyrénées. J'ai passé mon brevet de maîtrise, donc formation, et je me suis dit que cette structure qui est gérée par des élus, des chefs d'entreprise qui sont élus au moment d'élection en chambre de métier, qui sont renouvelables tous les 5 ans, sont au service de l'ensemble des entreprises artisanales des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, nous avons plus de 9000 établissements dans les Hautes-Pyrénées et nous avons vocation de les accompagner pour la création, pour la transmission, pour le développement, pour la formation, pour l'embauche. Voilà, on est présent aux côtés des chefs d'entreprise. Et cette réelle envie de servir le secteur des métiers, de servir bien entendu mon territoire avant tout, puisque je suis un Haut-Pyrénées de naissance, et je crois qu'il faut le faire, il faut y croire et il faut s'investir un maximum pour ne laisser personne sur le bord de la route. Les entreprises ont besoin de nous, on est là, il faut qu'elles le sachent et je les remercie. Et puis je salue d'abord tous les auditeurs que vous avez, bien entendu, j'aurais dû commencer par ça, leur dire qu'on sert, pour eux, c'est leur outil géré par des collègues. Voilà.
Comment se porte d'ailleurs le monde de l'artisanat, particulièrement dans le département de Haute-Pyrénées? Est-ce que vous avez des défections d'entreprise?
Alors, le monde de l'artisanat se porte un petit peu comme le monde en général, c'est-à-dire qu'il est en souffrance aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'activité soit florissante, on ne peut pas dire que l'embauche soit facile, on ne peut pas dire que l'achat de matières premières soit facile, on ne peut pas dire que l'énergie coûte pas cher pour les entreprises qui sont de gros usagers d'énergie. Je pense aux boulangers, je pense aux carrossiers, aux mécanos qui ont des notes d'électricité très élevées. Malgré tout, la particularité qu'a le chef d'entreprise, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, c'est de répondre par la réaction immédiate, par la réactivité, par la reconstruction de projets à toutes les crises. On a des crises depuis que le monde existe. On a vécu quelque chose que personne ne pouvait imaginer, c'est la crise sanitaire, où du jour au lendemain, les exploitations ont cessé. Malgré ça, le tissu économique d'Haute-Pyrénées n'en a pas trop souffert. On a toujours dans les vallées des chefs d'entreprise qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard. On a dans toutes les vallées des exploitants qui sont présents, qui font à la fois le lien social, le lien sociétal, qui font la richesse du territoire parce que leur activité n'est pas délocalisable. Un homme et une femme qui se lèvent tous les jours exploitent une entreprise qui est au service de la citoyenneté aux Pyrénéennes et dont les produits sont réinjectés dans le tissu économique d'Haute-Pyrénées. Et ça, il faut le souligner. Donc moi j'invite tous les auditeurs à faire leur achat dans les boutiques de proximité, à faire vivre le tissu économique local, aller chez le petit artisan, petit c'est péjoratif parce que ce sont des grands hommes et des grandes femmes, mais aller dans les tissus artisanaux pour faire vos achats et vous verrez qu'on continuera à tirer notre épingle du jeu.
Est-ce que quelque part le monde de l'artisanat se porte un peu mieux que celle du commerce? Parce que il est vrai qu'aujourd'hui on peut acheter via internet, mais si on veut se mettre une prise, on peut pas aller sur www, je mets une prise. Alors, et donc si vous changez, si je suis obligé d'une fuite, je vais faire appel à un sanitaire, et si j'ai besoin d'un charpentier, alors que c'est vrai que le commerce par rapport à l'artisanat a une concurrence peut-être mondiale.
Alors c'est un bel exemple que vous avez pris par rapport à des travaux qui sont les travaux purement de main d'œuvre. Aujourd'hui, dans tous les métiers qui touchent la conception de produits dans le bâtiment, dans l'alimentaire, ce sont des confections qui sont dites artisanales, qui sont de qualité. Cela ne souffre pas trop de l'achat dématérialisé et de l'achat mondial. Il est clair que l'action de commerce pur, Elle souffre des achats, et des achats pas chers, et des confections pas chères, et des fois des confections qui sont faites par une main d'œuvre qui est plus qu'exploitée. C'est vraiment l'esclavage industriel. Nous, en ce qui concerne
le textile, par exemple,
oui, pour pas le citer, le textile, pour pas citer certaines marques chinoises qui envahissent aujourd'hui le territoire. Mais je me mets à la place du citoyen qui a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui affaibli, qui est diminué, et qui veut malgré tout s'habiller, qui veut avoir la possibilité de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage familial. Il est clair que si l'achat est de qualité moindre, il permet aussi peut-être de le renouveler plus souvent. Et quand il est moins cher, il est utilisé plus facilement que un achat qui est dit soi-disant plus cher. Mais est-ce que, et je le dis souvent moi en rigolant, est-ce qu'une Mercedes c'est plus cher qu'une Clio? Pas forcément. Pourtant, les deux véhicules permettent de ne pas se mouiller quand il pleut et permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Mais il faut des portefeuilles pour les uns et des portefeuilles pour les autres. Chacun peut acheter ce qu'il souhaite acheter. Et aujourd'hui, l'artisan... Oui, ce qu'il peut. Mais l'artisan.
Sur les deux exemples que vous avez donnés.
L'artisan tire son épingle du jeu parce que il fait de la qualité. Et qu'on le veuille ou non, certains produits qui sont moins chers sont malheureusement bien souvent moins bons. Alors, il n'est pas forcé non plus que le plus cher soit meilleur. Mais malgré tout, le plus cher a une qualité différente. Et c'est ce qui permet aujourd'hui au tissu artisanal de démontrer sa force par la qualité, la présence, et puis surtout les amplitudes horaires, parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, un artisan, c'est là tous les jours, 24 heures sur 24.
Je dis au préambule de cette émission, on fait un cap sur l'artisanat, différence entre chaque métier ou celui du commerce. Comment on fait pour savoir si demain on veut une entreprise, si on dépend des commerces, des métiers ou des deux? Comment ça se passe? Et à quoi servent ces deux chambres consulaires?
Alors, les deux chambres consulaires sont au même titre que la troisième qui existe en France, c'est la chambre de l'agriculture. Elles sont indispensables pour un bon fonctionnement de toutes les structures. Chacune a sa vocation. Chambre d'agriculture, on le sait tous, c'est les agriculteurs. La chambre de commerce et d'industrie ne figure pas le terme artisanat. C'est commerce-industrie. C'est l'action de production de grande envergure et c'est l'action de commercialisation de produits. Et la chambre des métiers de l'artisanat, c'est tout ce qui est transformation de matière. Dans tous les métiers, on a plus de 250 de métiers aujourd'hui dans l'artisanat. Chaque fois qu'on va transformer de la matière, chaque fois qu'on va créer quelque chose avec de la matière, on est artisan. Et la double immatriculation, c'est le boucher charcutier qui fabrique son boudin, qui fabrique sa charcuterie et qui la commercialise. Donc l'action de commerce, il la vend. Le coiffeur, s'il vend des bijoux, s'il vend des shampoings, même si les coiffeurs, ils touchent la matière, c'est les cheveux, il est exploitant de l'artisanat. Mais le fait de vendre un produit, il devient commerçant. C'est l'action de commerce.
Double inscription.
C'est ce qu'on appelle la double immatriculation, d'accord, avec une priorité à l'immatriculation chambre de métier de l'artisanat. Aujourd'hui, on a les restaurateurs, on a les fromagers. Un fromager qui fait de l'affinage, il est inscrit au répertoire des métiers parce que il prend du lait, il prend tout ce qu'il a besoin pour faire un fromage. Ça, c'est la partie artisanale. Mais derrière, quand il le vend, c'est la partie commerciale. C'est un petit peu ce qui met le flou aujourd'hui au niveau du législateur qui considère que nous sommes des cousins très proches. On est cousins, oui, c'est vrai. On a une partie d'ADN commune. Mais chacun doit garder son pré carré et chacun doit apporter un service indispensable aux ressortissants chambres de métier et les CCI aux ressortissants commerce-industrie. Et c'est comme ça qu'on va arriver à accompagner l'entreprise, la TPE, où il y a un salarié avec un apprenti, et les sociétés comme Knopf, Socata, Daher, où il y a des centaines d'apprentis. Ce sont deux structures identiques avec des produits, des charges, un fonctionnement, compte d'exploitation, bilan, mais complètement différentes dans l'ADN profond de la constitution même de l'entreprise.
En parlant de formation, parce qu'on va évoquer ce volet formation, on va s'apercevoir que les CAP, BEP, Bac Pro, ce ne sont pas des voies de garage. Au contraire, aujourd'hui, si on cherche un électricien, si on cherche un plombier, si on cherche un maçon ou même un charpentier, on a du mal à en trouver. Donc il y a alors, et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont difficiles, hein, un peu. Est-ce qu'aujourd'hui notre jeunesse n'a pas trop envie de se mettre les mains dans la cambouis? Je sais pas, vous allez nous répondre à cette question. Mais avant, il y avait une formation obligatoire, hein. Je me souviens, pour avoir été inscrit à une époque à la Chambre des métiers, j'avais trouvé ça un petit peu embêtant de suivre cette formation, et contraignant, et puis il fallait la payer, et puis il fallait y aller. Et en fait, quand on ressort de cette formation, on dit merci à la Chambre des métiers. Elle n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que vous le regrettez?
Bien entendu. Comme toute bonne chose qui n'existe plus, ben, ça pénalise. Et ça pénalise aujourd'hui les nouveaux chefs d'entreprise. On est passé d'une formation qui était payante, certes, mais qui était qualifiante, qui était pas diplômante, mais qui était valorisante. C'était le stage préalable à l'installation, où tout chef d'entreprise passait sur les bancs de la chambre de métier, rencontrait tous les partenaires qu'il pouvait avoir dans son parcours professionnel, et avait surtout une orientation, un accompagnement, un soutien, une aide qui était vraiment spécifique à sa profession, à son métier, à son statut juridique. Le stage préalable à l'installation a été remplacé par une plateforme qui s'appelle la plateforme INPI, où aujourd'hui on s'installe avec trois clics. Je crois que c'est Raffarin qui avait dit, pour créer un SARL à l'époque, il fallait un franc et il fallait deux clics. Aujourd'hui, avec trois clics, vous créez une activité professionnelle. Sauf que derrière, ça arrive en chambre de métier, parce que nous les inscrivons encore aujourd'hui, et quand il manque une pièce, eh bien, quelque part, on est le détracteur du bon fonctionnement. Mais on ne peut pas s'inscrire si on n'a pas la totalité du dossier bien verrouillé. Et cette plateforme prive le contact humain avec des chargés de clientèle qui sont nos agents économiques, et Margot le fait régulièrement quand elle est dans la transmission d'entreprise, c'est d'écouter le porteur de projet en création, d'écouter le cédant en transmission et de voir avec cette personne comment on peut au mieux répondre à sa problématique. Et c'est indispensable pour, je crois, la pérennisation de nos entreprises.
Et il y a certains secteurs d'activité où il faut le diplôme. Je pense par exemple au coiffeur, il faut avoir un diplôme qualifiant pour s'installer coiffeur. On peut être salarié, mais pour être à son entreprise...
La qualification est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui dans tous les métiers. Il faut qu'il y ait une qualification.
Si demain, je n'ai pas le CAP électricien, je ne peux pas m'installer électricien.
Si, à condition de justifier de 5 ans d'ancienneté dans la pratique du métier.
D'accord.
Voilà, donc il y a des passerelles qui font que si on n'est pas diplômé avec la certification diplômante, on peut l'être par ce qu'on appelle presque de la VAE aujourd'hui, c'est-à-dire une ancienneté dans la pratique du métier. Et pour en revenir au coiffeur, l'exemple, il est pertinent dans la mesure où il fallait un BP pour ouvrir un pas de porte, c'est-à-dire ouvrir à la clientèle une parcelle de rue dans laquelle on rentrait dans un salon de coiffure. Obligatoire, le brevet professionnel. Les coiffeurs à domicile, il n'y a plus le brevet professionnel. Et les micro-entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas de brevet professionnel non plus. Ce qui fait que même cette forme de protection qu'il y avait, parce qu'il faut savoir qu'un coiffeur vous met des produits chimiques sur la tête, et à un moment donné, ça peut être dangereux. Donc il y a une formation spéciale et spécifique. Mais ça s'est perdu petit à petit, tout simplement pour la simplification. On en parlait avec le SPI, c'était soi-disant compliqué de passer 4 jours, de payer à l'époque 200 euros pour 4 jours de formation. Quand on sait ce que ça rapporte à l'entreprise, c'est vraiment epsilon en dépense. Ben aujourd'hui, on n'a plus cette dépense, mais on n'a plus la qualité d'entreprise. Et dans le répertoire des métiers aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 80% de nouveaux arrivants qui sont sous le régime de la micro-entreprise. C'est ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, mais aujourd'hui, c'est le micro-social. Statut juridique qui est obligatoire en chambre de métier que nous inscrivons depuis 2010, depuis la loi Novelli. À partir de là, on se rend compte que les formations CAP, BEP, Bac Pro, qui étaient les formations en alternance et les formations en apprentissage dans les CFA de chambre de métier, ben elles ont baissé aussi. Parce que il est clair que celui qui prend un statut de micro-social, il n'a pas derrière l'idée de pouvoir créer, développer et faire de la formation et créer de l'emploi. Donc c'est un peu plus complexe.
Quelqu'un qui est passé en micro-entreprise ne peut pas prendre un apprenti.
Alors, il est plafonné au niveau du chiffre d'affaires. Et s'il veut prendre un apprenti, il y a en face d'un contrat d'apprentissage, puisque c'est un contrat de travail, une rémunération, et il faut un minima que l'entreprise fasse des produits pour pouvoir sortir des charges.
Et donc, on est au-delà.
Et à un moment donné, il faut basculer dans le régime de droit commun.
De droit commun.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir donné la possibilité à la Chambre de métiers d'avoir ce temps de parole qui est quelque chose d'important en matière de formation, vous l'avez dit, je le rappelle, l'apprentissage voie royale pour trouver un emploi. Et puis, au niveau économique, les artisans, il faut les aider, il faut les accompagner, il faut être présent, il faut leur réserver les achats. C'est indispensable.
Écoutez, si on a le même accueil que vous, vous êtes dynamique à la Chambre des métiers, franchement, n'hésitez pas, franchissez la porte, et si vous n'avez pas l'information immédiatement, on l'aura compris, vous demandez à vos collaborateurs, bien sûr, de trouver les réponses et de bien revenir vers l'artisan ou la personne qui veut créer son entreprise pour avoir toutes les réponses. Grand, merci à vous. On n'a peut-être pas donné l'adresse. Merci à vous. Vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, à la chambre...
Rue. Allez, 10 bis, du 4 septembre.
Du 4 septembre,
voilà. À côté de la sécurité sociale.
On fait angle de rue.
On fait angle de rue, comme ça on est vu de partout.
Depuis des années.
Tout à fait.
Merci
tout
beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Daniel Pagès, voilà, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hautes-Pyrénées, voilà, pour la rediffusion de cet entretien qui a été enregistré il y a quelques semaines par Philippe Subercase. La suite de cette émission dans les prochaines minutes, dans un quart d'heure précisément, l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Mais pour le moment, on va prendre un peu d'altitude, direction les Pyrénées, avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. Cette semaine, Anne Lasserre a sélectionné Victor Hugo comme auteur.
Présence à Millau, 106.5.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
La semaine dernière, on se quittait en disant que l'auteur de cette semaine, c'était le monsieur, monsieur écrivain, c'est monsieur Victor Hugo.
Oui.
Ouais. Aujourd'hui, nous allons donc à Pau et à Cotteret, en compagnie, ben voilà, on l'a dit, un des plus grands écrivains, monsieur Victor Hugo.
Il vient Philippe à Cotteret, parce qu'il suit une cure en 1843. Il a beau être un grand écrivain, il souffre comme nous, et il souffrait de rhumatisme et de problèmes aux yeux.
Avant de se rendre à Cotteret, il séjourne à Pau. Et dans le passage que vous avez retenu, il évoque Antoine de Bourbon, qui est le père de notre bon roi Henri IV.
Henri IV, dont la mère, Philippe, n'est autre que Jeanne d'Albret, fille de Henri II, roi de Navarre.
Il dit aussi que le tremblement de terre de Lisbonne, qui a eu lieu le 1er novembre 1755, le jour de la Toussaint, a été ressenti jusqu'à Lourdes.
Oui, et ce tremblement de terre a fait de très nombreuses victimes. Une énorme vague a détruit le port. Des incendies ont brûlé pendant plusieurs jours.
Par son intensité, ce tremblement de terre a marqué les esprits de nombreux penseurs européens en ce milieu du XVIIIe siècle.
Voltaire, par exemple, Philippe, écrit un poème sur le désastre de Lisbonne et il évoque à nouveau ce drame dans son célèbre conte philosophique, Candide.
En tout cas, on comprend en lisant Victor Hugo pourquoi il avait toujours un carnet dans sa poche. Il était intéressé par tout ce qu'il voyait. Voilà, c'est quand même incroyable. Lisbonne,
oui,
Lourdes.
Oui.
Ça fait un bout, hein.
Oui, oui.
Pour l'avoir fait en voiture.
Oui. Mais il paraît que ça a été un tremblement de terre épouvantable.
Ah, bah oui, hein, parce que.
Qui a détruit la ville de Lisbonne.
Oui, parce que Lisbonne-Lourdes, c'est presque Lourdes un peu plus loin que Paris.
Hein. Ah oui.
Donc, ça a dû trembler. Ah non, on vous écoute donc avec l'auteur de cette semaine, M. Victor Hugo.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
On connaît de Victor Hugo son ouvrage posthume, En voyage, Alpes et Pyrénées. On connaît moins ce qu'il écrivit dans ses carnets au cours du séjour qu'il fit dans les Pyrénées, en août 1843. Il était venu à Cotteret soigner des rhumatismes et des ophtalmies. Dans ses carnets, il en a toujours un dans sa poche, il prend des notes, il ne rédige pas forcément des phrases. Voici ce qu'il écrit dans l'un de ses carnets quand il quitte Pau pour Cotteret. Gaie, jolie, propre, un peu trop refaite et remaniée, ce qui lui ôte son air historique. La tranchée que fait le vieux fossé à travers la ville a conservé seule l'ancienne physionomie du pot d'Antoine de Bourbon. Vieille maison d'ardoise, cahotée, coupée d'accidents curieux d'architecture, étalant à tous leurs étages les verrues originales et bizarres de la maçonnerie domestique du XVe siècle. 6 heures du matin, il pleut. La pluie en haut, le gave en bas mêlent leur bruit. Route pittoresque, ombragée, verte et gaie, malgré le mauvais temps. Les Pyrénées à l'horizon, sommets cassés, mâchés, tordus, pétris, comme tripotés par la main formidable d'un géant. Petit lac de neige dans les trous. On n'entend plus ici ces appellations éclatantes jetées à toute voix par les muletiers espagnols à leurs mules. En avant, la générale, la capitaine. Le cocher béarnais dit à ses juments, en patois et à demi-voix, avec l'accent tantôt goguenard, tantôt caressant, « En avant, la grise, la blonde !» Dans un village, cette inscription sur une porte, « L'Okea des Cernes no puede faltar !» On sent le voisinage de l'Espagne. Ici, les toits d'ardoise, partout, toits aigus, inclinés pour l'écoulement des neiges et des pluies. Faites quelques lieues, traversez ces montagnes, vous trouvez les toits plats, les tuiles creuses. Ici, les villages des Ardennes, là, les villages de la Calabre. Le nord est sur un versant des Pyrénées, le midi sur l'autre. Saint-Pé, charmante ville, avec des vestiges du 15e et du 16e siècle. Les paysannes sortent de la messe en longue file, vêtues de noir, avec des capuchons gris, blancs, rouges. On dirait des processions de religieuses de tous les ordres. À Cotteret, l'effet est encore plus étrange. Elles ont le capuchon gris et les pieds nus. Lourdes, arrivée magique, magnifique donjon du XIIIe siècle sur un rocher. Le Gave d'un côté, la ville de l'autre. Au fond, les montagnes, hautes, abruptes, coupées de tranchées profondes d'où montent les brumes, le vent, le bruit. À Lourdes commence la grande gorge des Hautes-Pyrénées qui s'épanouit à Vidalos, s'écarte et se divise en quatre ravins et forme cette immense patte d'oie dont le centre est Argelès et dont les quatre ongles vont atteindre à l'occident, Arbeost, par la vallée d'Estrême de Sales et Aucun par le Val d'Azun. Au midi, Cotteret par le détroit de Pierrefitte et au levant, Barège, par le défilé de Luce. La gorge de Lourdes à Argelès en est pour ainsi dire le manche, comme le bras de cette main ouverte. Lourdes est la porte des Hautes-Pyrénées. En 1755, elle ressentit le contre-coup du tremblement de terre de Lisbonne. Le réseau central des Pyrénées était gardé au Moyen-Âge. Chaque articulation des vallées avait son château qui apercevait les deux châteaux des deux vallées voisines et correspondait avec eux par des feux. On en voit aujourd'hui les ruines qui ajoutent un immense intérêt au paysage. Rien de plus poignant que les ruines de l'homme mêlées aux ruines de la nature. Le donjon de Lourdes voyait les trois tourelles du château de Pau, qui apercevait la tour carrée de Vidalos, laquelle pouvait communiquer par des signaux avec l'antique Castrum Emilianum, bâti par les Romains et relevé par Charlemagne sur la colline de Saint-Savin, qui se rattachait à travers les montagnes à la forteresse féodale de Beausens. Les signaux s'enfonçaient ainsi de tours en tours dans la vallée de Luce jusqu'au château de Sainte-Marie, dans la vallée de Gavarnie, jusqu'à la citadelle des Templiers. Les châtelains des Pyrénées, comme les burgraves du Rhin, s'avertissaient les uns les autres. En quelques heures, les bailliages étaient sur pied, la montagne était en feu. Les paysans, chose remarquable et toute locale, ne haïssaient pas ces châteaux. Ils avaient le sentiment que ces forteresses, tout en les dominant, en les opprimant même, protégeaient la frontière. C'est le peuple des montagnes qui a donné à l'un de ces châteaux, près du col d'Ossau, le nom de Bon Château, qu'il garde encore, Castel Loubon. Victor Hugo ne se déplaçait jamais sans un carnet, sur lequel il dessinait, prenait des notes sur place, notes qu'il exploitait en revenant chez lui, car tout l'intéresse, les paysages, l'histoire locale, les gens. Lorsqu'il se rend dans les Pyrénées en 1843, il est accompagné par Juliette Drouet et il voyage incognito, ne donnant, quand il doit se nommer, que la deuxième syllabe de son nom, qu'il laisse orthographier selon la fantaisie du questionnaire. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Victor Hugo, intitulé « Voyage aux Pyrénées », suivi du journal de Juliette Drouet, ouvrage publié par les éditions Cairn en 2014.
Alors on peut quand même préciser aux auditeurs que vous avez fait la préface de cette nouvelle édition du Voyage aux Pyrénées de Victor Hugo.
Je l'ai fait, Philippe, à la demande des éditions Cairn, qui voulaient rééditer cet ouvrage en le faisant suivre du journal tenu par Juliette Drouet, hein, qui accompagnait Victor Hugo.
Et ce qui vous a intéressé, hein, je crois, c'est que Victor Hugo et Juliette Drouet ont des regards bien différents sur les Pyrénées et leurs habitants, même s'ils voyagent ensemble.
C'est exactement ça, Philippe. Juliette Drouet, elle tient un journal, comme pourrait le faire un intendant, un économe. Tandis que sous la plume de Victor Hugo, les paysages s'animent, prennent vie.
Eh oui. Juliette Drouet, elle est terre à terre. Elle note les dépenses, les menus, les heures d'arrivée et de départ de la diligence. C'est moins poétique. Mais elle donne des renseignements intéressants sur la vie dans les Pyrénées au XIXe siècle.
Assurément, et c'est pour cela que c'est intéressant, parce que Victor Hugo lui porte surtout un regard empreint de poésie. Il se réjouit d'avoir tous les jours un spectacle nouveau, inattendu et merveilleux sous les yeux. Et Juliette Drouet, elle, c'est la vie au quotidien.
Au quotidien, voilà. Les deux se complètent merveilleusement bien, je pense.
Parfaitement, oui.
Et donc, on vous a demandé de faire
cette préface, voilà. Et ce qui était intéressant, c'était vraiment de réunir le journal de Juliette Drouet et les écrits de Victor Hugo.
Ah, et ça a dû... C'est quand même un peu honorifique quand faire une préface d'un livre où Victor Hugo écrit.
Oui, bien sûr. Et en même temps, cela m'a permis de relire et relire X fois ce voyage de Victor Hugo dans les Pyrénées qui est remarquablement écrit. On ne s'en lasse pas. Ouais. On peut le relire sans arrêt.
D'accord.
Et en se laissant bercer par son style remarquable.
Voilà, Anne. Mais je ne savais pas que vous aviez fait cette préface. Félicitations à vous. Alors, la semaine prochaine, nous partirons dans une diligence branlante pour aller à Foix avec un écrivain britannique qui s'appelle...
Charles Richard Weld.
À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés. Au bord du matin, sur l'autoroute.
que des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence.
Présence dans le Grand Toulouse 97.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape encourage les initiatives en faveur des chrétiens d'Orient. Il l'a rappelé ce matin en recevant les membres d'une